Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il ne cesse de gagner du terrain. En Suède, l'extrême droite est au pouvoir à la faveur d'une coalition avec la droite à l'issue des récentes législatives. En Italie, c'est ce dimanche qu'auront lieu des élections générales et la formation nationaliste Fratelli d'Italia est annoncée en tête. Ajoutez à cela les élections au Brésil qui verront dans 10 jours Jair Bolsonaro briguer un deuxième mandat. Le monde assiste-t-il impuissant face à la montée des populismes? C'est la question que nous posons ce soir. Jusqu'où ira cette marche en avant? Le plafond de verre, le fameux plafond de verre, est-il dépassé? Quel levier pour inverser cette tendance? Voilà nos questions. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités. D'abord à mes côtés en studio, Anaïs Voigelis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique, chercheuse spécialiste des partis nationalistes européens. Et je vais citer votre ouvrage, L'Union européenne à l'épreuve des nationalismes. Face à vous, Cyril Coulet, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur spécialiste des pays nordiques, on va parler de la Suède avec vous. Vous avez été chercheur invité à l'Institut suédois des relations internationales à Stockholm, la capitale suédoise. Gilles Ivaldi, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, vous êtes en ligne, chargé de recherche au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, spécialiste des partis de droite radicales en France et en Europe, auteur du livre De Le Pen à Trump, le défi populiste. Voilà, qui permet de balayer un spectre large. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'extrême droite? Est-ce qu'on parle de populisme? Anaïs Voigelis, on a l'impression qu'on ne peut plus dire d'un parti qu'il est d'extrême droite.
Alors, en réalité, le terme d'extrême droite en lui-même fait l'objet de différentes définitions en fonction des personnes qui en parlent. Et l'extrême droite, elle pourrait elle-même faire l'objet d'une différenciation en fonction des partis dont on parle. C'est-à-dire, quand on parle d'extrême droite, on va mettre des partis comme la Ligue, Fratelli d'Italia, le Rassemblement National ou les démocrates de Suède. Et puis, on va aussi mettre des groupuscules ou des micro-partis comme le Bloc Identitaire en France ou Casapan en Italie, ou encore l'Aube Dorée, qui est un parti ouvertement néo-nazi en Grèce. Et pourtant, dans tous ces partis, il n'y a pas forcément le même rapport à la démocratie ou aux élections. Il y a des partis qui refusent complètement le fait de participer aux élections, ce qui a été par exemple longtemps le cas du Bloc Identitaire avant son rapprochement avec le Rassemblement National. Et derrière, on a aussi tendance à employer très souvent le mot populisme pour parler de ces partis. Et je trouve que le mot populisme ne dit finalement pas la réalité de ce qu'ils sont en termes idéologiques, parce que le populisme, on pourrait plutôt dire que c'est un style politique et qu'on peut trouver des traits populistes, notamment chez des partis de gauche en Amérique latine. Donc moi, je préfère, à titre personnel, parler plutôt de partis nationalistes identitaires, parce qu'ils sont nationalistes, mais la composante d'identité et la dimension identitaire, elle est très forte, notamment dans tous ces partis qu'on voit dans les différentes élections des pays membres de l'Union européenne.
Mais quand, par exemple, un parti comme le Rassemblement national ou Reconquête, je parle de la France, par exemple, Reconquête d'Éric Zemmour, affirme ne pas être d'extrême droite, est-ce que c'est une stratégie politique ou est-ce que c'est que leurs idées ont évolué?
Il y a une stratégie politique qui est aussi liée à la dédiabolisation, la volonté de ne pas être cantonné dans un extrême sur l'échiquier politique, l'idée de vouloir se recentrer. Après, il y a des évolutions qui peuvent être liées à la vie des partis. Si on prend par exemple le Rassemblement national sur la question économique, entre ce qu'était la position de Jean-Marie Le Pen au moment de la création du parti, où il se présentait plutôt comme un Reagan à la française, donc très libéral, et la position de Marine Le Pen sur les questions économiques, on voit aujourd'hui, qui est plutôt étatiste, on voit cette évolution. Et pourtant, il y a des dominante dans le discours qui reste, c'est-à-dire cette notion d'identité, le rapport à l'immigration, à ce qu'est la nation, comment on réagit par rapport à l'autre, qui sont des éléments qu'on peut qualifier comme les qualifiants d'extrême droite, avec toute la nuance qu'on peut mettre autour de ce terme et le fait de nuancer en fonction des parties qu'on a derrière ça.
Cyril Coulet, comment expliquer que l'extrême droite ne fasse plus peur? Il y a un héritage qui peut être lourd. On parle par exemple de Fratelli d'Italia qui est annoncé aux portes du pouvoir en Italie ce week-end, issu du mouvement néo-fasciste MSI. On parle, et vous connaissez bien, les démocrates de Suède qui sont à la tête de la coalition au pouvoir actuellement en Suède et qui ont été fondés en 1988 par des néo-nazis malgré tout. Donc on dit que les idées finalement ont infusé le reste du spectre politique, les idées de l'extrême droite, mais il y a quand même ce passif qui est lourd et qui ne fait plus peur.
Alors, déjà, peut-être juste une chose, l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir en Suède. Hein. C'est un gouvernement c'est actuellement de transition qui est encore mené par les sociaux-démocrates le temps que Ulf Kristersson puisse constituer un gouvernement dans le cadre d'une coalition qui a intégré effectivement le parti d'extrême droite qui est actuellement la première force politique hors en dehors des sociaux-démocrates.
Ouais, première force de droite arrivée en deuxième position à l'issue des législatives.
Et qui
Suède.
Effectivement a des racines ouvertement dans ce qu'on nous on pourrait qualifier d'extrême droite si on prend un positionnement idéologique, c'est-à-dire des mouvements effectivement néo-nazis. À la base, le mouvement s'appelait Bevara Sverige Svensk, ce qui signifie conserver la Suède suédoise. Je pense que ça dit assez bien le programme de ce parti, mais qui aussi se développe dans une société particulière qui est la société suédoise, qui de ce point de vue-là n'est pas forcément représentatif des autres sociétés nordiques. On a tendance, vu de France, à faire en définitive une somme de l'ensemble des pays qui se situent au nord, en disant que, en posant en fait une unanimité, et c'est vrai que le terme de pays nordique est assez trompeur. La Suède est une exception dans les pays nordiques, c'est le pays dans lequel il n'y a pas eu d'occupation nazie, donc il n'y a pas eu de compromission de l'extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un pays dans lequel il n'y a pas eu la tutelle de Moscou sur la vie politique intérieure comme c'était le cas en Finlande. Et par conséquent, l'extrême droite a toujours pu exister dans l'espace politique suédois, ce qui n'était pas le cas en fait chez ses voisins. Pour dire en tout cas que finalement, il y a eu une présence de l'extrême droite dans le paysage politique qui, en revanche, ne garantissait pas son acceptation par la population. On est bien d'accord, ou en tout cas, pas par la majorité de la population. Là, effectivement, on assiste à un basculement, ou en tout cas, une force politique qui connaît une croissance exponentielle, hein, qui passe finalement, en l'espace de 12 ans, d'une entrée dans le Parlement en passant la barre des 4%, à devenir finalement une force qui se présente comme étant la force d'opposition au Parti social-démocrate. Donc votre question, c'est pourquoi, comment on y arrive ? Sans doute que, en fait, le jeu des alternances déjà favorise en définitive ces forces politiques qui, à un moment donné, ont la capacité de se présenter comme étant une alternative.
Et parce qu'ils n'ont jamais gouverné ?
Parce qu'ils n'ont jamais
gouverné. On parle de la Suède, mais c'est le cas majoritairement dans le monde.
Dans le monde, alors dans l'espace nordique, en définitive, il n'y a que le Danemark pour lequel ce soit le cas. En Norvège et en Finlande, en fait, les partis de droite populistes ont été au gouvernement. Effectivement, en Suède, ils peuvent se présenter comme étant une alternative parce qu'ils n'ont pas gouverné. Ils font écho à des préoccupations. Ils arrivent à exploiter aussi des faits divers. Leur thématique identitaire sur la promotion d'une Suède fantasmée, c'était d'ailleurs le clip de campagne des démocrates de Suède est de ce point de vue-là particulièrement éclairant. On a une introduction de 15 secondes, même pas d'ailleurs, je pense que ce serait plutôt 5 secondes pour dire en gros la Suède a des problèmes et c'est lié aux anciens partis. Mais moi, je vais vous parler en fait de ma Suède. C'est comme ça que Jimmie Åkesson commence son clip de campagne et ensuite on rentre dans quelque chose qui est en fait une vision fantasmée de ce que serait la Suède, qui permet d'ailleurs de ne pas forcément aborder les problématiques véritablement du moment. Et ça fait écho, en tout cas, à une inquiétude, une angoisse de la population, et notamment, ça met en exergue les problématiques rencontrées autour des problématiques d'intégration, sur lesquelles les faits divers peuvent être légion et permettre d'accréditer l'idée, je le dis souvent, d'une altérité radicale, parce que l'autre est finalement tellement autre, tellement différent de la société originelle que ces partis en définitive définissent, qu'ils sont inintégrables.
Gilles Ivaldi, les raisons du succès de cette marche en avant, est-ce que c'est un mouvement de fond, vous allez me répondre, hein, des mouvements d'extrême droite, des mouvements populistes, ça tient en un mot, crise ?
Crise, si on le prend au pluriel.
Oui.
En réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, on a beaucoup de recul hein, parce que ces mouvements ne sont pas des mouvements qui ont émergé là, dans les mois qui viennent de s'écouler. Ce sont des mouvements qui, pour beaucoup, occupent le devant de la scène politique depuis les années 70 à les années 80, selon les contextes. Donc, on sait qu'il y a trois grands ordres de facteurs en fait, qui propulsent ces mouvements politiquement. Le premier et le plus important, et on l'a dit, c'est l'immigration. C'est-à-dire l'ensemble des questions qu'on appelle culturelles, liées à l'identité, à l'immigration, de plus en plus à l'islam aussi, au multiculturalisme, ça reste le facteur principal de mobilisation. Et ces mouvements sont tous...
Pardon, mais sur ce plan-là, justement, en quoi c'est... Parce que ça fait des dizaines d'années que c'est finalement le programme, en tout cas les idées chères, les thématiques préférées des mouvements d'extrême droite. En quoi est-ce qu'on a un moment charnière? Pourquoi aujourd'hui elle s'impose davantage? Est-ce que c'est parce que les partis traditionnels ont délaissé ces thématiques-là et que finalement, de plus en plus dans l'électorat, on se dit que seuls les partis populistes, les partis d'extrême droite sont à même de répondre à ces questions-là liées à l'immigration?
Alors, si vous me permettez, peut-être, on n'est pas dans un moment charnière. C'est-à-dire que ce qui se joue aujourd'hui en Italie, en France, en Suède, on l'a connu il y a quelques années en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark, on a rappelé la Norvège. Donc, ces mouvements sont très installés depuis très longtemps. Et comme beaucoup de partis, ils ont des hauts, des bas. Regardez le RN en France. Hein, aujourd'hui, Marine Le Pen fait un peu plus de 41% au second tour de la présidentielle. En 2007, son père réunissait à peine 10% au premier tour. Donc, ce sont des partis comme les autres. On sent qu'ils ont des hauts, des bas, ils fluctuent. Donc, on n'est pas dans un moment charnière. On est simplement dans un moment où, selon les contextes, et c'est le cas en Suède, par exemple, on a vu que l'immigration, la sécurité sont revenus sur le devant de la scène. On a vu en France qu'effectivement, Marine Le Pen a su se saisir de colère, de ressentiment. Et c'est le deuxième grand ordre de facteurs que je voulais évoquer, c'est qu'au-delà de ces questions culturelles, il y a effectivement, et ça renvoie à votre notion de crise, un effet des crises économiques. Des anxiétés, des insécurités économiques qui sont porteuses pour ces mouvements. Et puis il y a un troisième élément qui est très important et qu'on trouve aujourd'hui, et c'est la discussion que mes confrères là, avaient sur votre plateau autour de la question de nouveauté ou d'alternative. N'oublions pas que beaucoup de ces mouvements, sinon la quasi-totalité, en tout cas de ceux qui sont vraiment installés dans le paysage politique, sont des mouvements qui sont populistes. D'ailleurs, une des grandes transformations de l'extrême droite moderne, c'est d'avoir laissé le côté antidémocratique pour se saisir du populisme. Et ce populisme leur permet, à travers la critique des élites, de l'establishment, de mobiliser, de capitaliser sur tous les mécontentements. Et donc on voit bien aujourd'hui, on l'a vu dans cette période d'un peu de transition post-pandémie, que ces partis sont capables de mobiliser là-dessus. Donc vous avez ce paysage, en tout cas ce triptyque de facteurs, essentiellement des facteurs culturels, des facteurs économiques, mais également des facteurs politiques. Et cela éclaire les fortunes électorales de l'extrême droite, mais qui restent relativement variables selon les époques et selon les contextes.
Des facteurs qui expliquent cette marche en avant de l'extrême droite. Mais Anaïs, voilà, Gilly Valdi dit qu'on n'est pas plus à un moment charnière aujourd'hui que dans les années 2000, où on a eu l'Autriche de Jörg Haider qui a inauguré la première réunion des droites.
Alors, je mettrai peut-être de la nuance là-dessus. Pour rappel, quand le FPÖ arrive en Autriche, il y a de grandes manifestations. C'est un choc. Il y a des réactions de tous les États européens. Limite, l'Autriche se retrouve presque au banc de la société européenne. 2017, Marine Le Pen arrive au second tour. 2002, Jean-Marie Le Pen, second tour des présidentielles, grande manifestation en France. 2017, Marine Le Pen arrive au second tour. Très peu de réactions dans la rue. Parce qu'il y a une banalisation, il y a déjà un changement, peut-être dans certains mots utilisés par ces partis, un renouvellement de cette classe politique, une volonté de se dédiaboliser, qui fait qu'on les a acceptés dans notre vie démocratique. Et pour certains, ils sont devenus les premiers partis d'opposition. Et on a une forme d'accélération à partir de 2015 et la crise migratoire en Europe. Et là, on voit à nouveau le FPÖ qui arrive dans le cadre d'une coalition au pouvoir en Autriche. On voit la même chose avec la Ligue et le mouvement 5 étoiles en Italie. On voit aussi une deuxième chose, c'est que quand certains de ces partis sont affaiblis dans la vie politique de leur pays, il y a toujours une alternative qui se crée. Obdoré s'affaiblit en Grèce, il y a un autre parti un peu moins radical qui arrive. La Ligue s'affaiblit en Italie, on a Fratelli d'Italia qui monte en puissance. On a la même chose qui se produit aux Pays-Bas.
En France, on a
la continuité du Rassemblement National.
Avec Reconquête.
Et c'est aussi un mouvement qu'on peut observer à l'échelle mondiale avec des gens comme Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis. Donc, on voit qu'on a une bascule parce qu'on a connu aussi en 2008 la crise économique qui a commencé à questionner certains fonctionnements et amortisseurs dans les démocraties occidentales. On a aussi le fait qu'il y a une fatigue démocratique dans un certain nombre d'États, le sentiment de ne pas être représenté. À cela s'ajoute le contexte européen et pour beaucoup de citoyens, le sentiment que l'Union européenne manque de transparence. Et puis, j'ai oublié de préciser, On a aussi toute une dynamique qui se joue dans les pays à l'est de l'Europe, avec le parti Droit et Justice, avec en Pologne, avec Orban en Hongrie, et qui font que ces partis ne sont plus isolés dans la vie politique nationale. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on disait, bah, si Marine Le Pen elle arrive au pouvoir, avec qui elle pourra discuter ? Aujourd'hui, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle a des alliés en Europe avec qui elle peut échanger, des gens qui sont au pouvoir, une capacité de créer des rapports de force aussi au sein des instances européennes. Et donc là, on se voit dans un moment critique, parce qu'il faut toujours rappeler que l'extrême droite, on adore se faire peur avec. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une élection, on dit « Ah, ça y est, le Rassemblement national va arriver au pouvoir », et puis après, on souffle. On dit « Ah non, ça ne s'est pas produit ». Et on ne se remet pas fondamentalement en cause sur les mécanismes qui font...
Et l'extrême droite ne cesse de progresser.
Alors, il faut toujours le regarder... En tout cas en France. Il faut toujours le regarder, le mettre en rapport avec aussi la progression de l'abstention. C'est-à-dire que l'extrême droite, elle arrive à solidifier son électorat, c'est une réalité, mais elle profite aussi de la démobilisation des autres électorats. Et c'est aussi ce qui va se passer en Italie. Et en France, si Marine Le Pen arrive un jour au pouvoir... C'est pas forcément que sa base électorale va grossir de manière exponentielle, mais c'est parce que les autres électeurs se détournent des urnes.
Mais fort de ce constat, on peut que dire que le plafond de verre, ce fameux plafond de verre qu'on évoque souvent, il a été dépassé. Est-ce qu'aujourd'hui l'extrême droite est à même de gouverner ? Ou est-ce que son ADN est finalement d'être uniquement une force d'opposition ?
Il y a une étude du Tony Blair Institute qui dit, alors c'est les partis populistes, mais qui dit que les partis populistes arrivent à se maintenir au pouvoir, parce qu'on a tendance à dire que les pouvoirs les abîment, mais en fait cette étude montre que finalement ils arrivent à se maintenir et qu'ils sont par contre plus à même d'abîmer l'état de droit sur la durée et en profondeur que les autres partis.
Il y a des exemples ?
Je pense qu'on peut prendre l'exemple de la durée de vie de Orban en Hongrie, on peut prendre l'exemple de Droit et Justice en Pologne, on peut quand même prendre l'exemple de la continuité dans la vie politique de partis comme la Ligue en Italie, même s'ils s'affaiblissent. L'extrême droite, aujourd'hui en Italie, on doit être aux alentours de 40 à 45% des intentions de vote. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement minoritaire. Ils sont presque en capacité à eux seuls de devenir majoritaires dans le pays.
Cyril Coulet, comment, par exemple en Suède, puisque vous êtes spécialiste de la Suède, chercheur spécialiste des pays nordiques, on s'organise face à justement cette montée de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a une réponse qui est apportée ?
Alors oui, il y a une réponse un peu médiatique, il y a des prises de position, mais fondamentalement, il y a quelque chose qui a changé. Moi, je me souviens, en 2006, les Suédois disaient légitimement... L'extrême droite ne viendra jamais au Parlement. Donc déjà, 2010 a été un temps de sidération pour la société suédoise de réaliser qu'en définitive, l'extrême droite pouvait être présente au Parlement. Aujourd'hui, on n'est plus à une question de sidération, d'avoir quelques voix. C'est un parti qui a été intégré pour la première fois dans une coalition de partis, puisque jusqu'ici, les coalitions partisanes avaient justement pour objet de faire un peu un cordon sanitaire contre l'extrême droite. Là, on change en fait la donne. Ensuite, l'acceptabilité du parti, elle n'est encore pas totalement présente parmi l'ensemble des forces politiques. C'est justement l'un des gros défis, en définitive, dans la constitution du gouvernement actuellement. Très, très concrètement, Ulf Kristersson, même si sa base des modérés... aujourd'hui est prête à une alliance avec l'extrême droite, les libéraux ne sont pas prêts à ça. Le parti du centre avait fait défection il y a 4 ans en arrière, justement parce qu'il ne voulait pas d'une alliance avec l'extrême droite. Donc, il y a encore...
Ça reste un frein qu'on retrouve dans de nombreux pays, justement, que les autres partis ne veuillent pas s'allier avec l'extrême droite. Mais c'est en ça que notamment la droite a une énorme responsabilité.
Que certains ne le veulent pas, en tout cas, ou n'y sont pas encore prêts. Mais la difficulté, c'est
Ils ne sont pas encore prêts.
N'y sont pas encore prêts. Et la difficulté, c'est que dans des systèmes institutionnels ou politiques dans lesquels on est sur de la proportionnelle, et c'est le cas en Suède, hein, avec une barrière d'entrée à 4%, donc c'est très faible, à partir du moment où vous franchissez un certain seuil, vous perturbez en fait le fonctionnement institutionnel. Donc la dégradation en fait des institutions, elle se joue aussi par là, c'est-à-dire que même s'il y aurait un cordon sanitaire qui se mettrait en œuvre, en un sens, à un moment donné, ça deviendrait ingouvernable. Et ça a été le cas de la Suède. Concrètement, la Suède s'est trouvée dans une instabilité gouvernementale à partir des dernières élections en 2018, justement parce que le cordon sanitaire venait bloquer en fait le fonctionnement institutionnel, on ne permettait pas de dégager une majorité suffisante, et c'est encore accentué aujourd'hui par la montée en puissance de l'extrême droite, où on se retrouve avec un bloc qui est fragile, avec des majorités qui sont difficiles à tenir, et qui, à un moment donné, peuvent condamner en partie l'exécutif à une forme d'impuissance. C'est un peu paradoxal. Donc l'acceptabilité, elle est pas encore totalement acquise, d'une part. Et d'autre part, on arrive dans une situation un peu paradoxale où, pour la Suède, du moins, le fait d'être à ce niveau-là, pour le Parti des démocrates de Suède, c'est à la fois soit trop élevé, soit trop faible. C'est-à-dire que c'est, soit ils sont trop bas pour pouvoir constituer un gouvernement par eux-mêmes, ils sont trop hauts pour pouvoir être mis de côté dans le jeu politique. Et là, ça crée en fait une situation d'instabilité. Et il est possible que la création du prochain gouvernement prenne... pour le coup, bien une centaine de jours, voire plus encore. Donc, le jeu politique institutionnel va être perturbé. Je ne vais pas m'étendre davantage, parce que je parle beaucoup et je prie de m'en excuser. Mais c'est vrai que c'est une spécificité suédoise d'avoir parfois des gouvernements qui gouvernent avec des budgets qu'ils n'ont pas votés.
Mais est-ce que cette spécificité, Gilles Valdi, on la retrouve ailleurs? Parce que ce jeu politique institutionnel, justement, qui complique les choses pour l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, est-ce qu'on le retrouve ailleurs? Et est-ce que c'est ça qui fait que, finalement, cette marche en avant peut être entravée?
Selon les cas, oui, on a des systèmes institutionnels qui sont plus résilients à l'extrême droite. La France en est un bon exemple. Longtemps, le système majoritaire a très largement empêché Marine Le Pen ou son père avant elle d'accéder notamment à l'Assemblée nationale. On sait que longtemps, le RN a été sous-représenté, très largement sous-représenté à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on voit que là même, dans cet hémicycle-là, il y a un changement qui est assez significatif. Effectivement, ce que disaient vos intervenants, c'est que dans la plupart des pays européens où on a des systèmes proportionnels, qui sont aussi des systèmes de coalition, il est plus facile pour l'extrême droite, lorsqu'elle atteint un niveau, un seuil minimum et un certain volume électoral, de s'imposer comme partenaire de coalition. On a effectivement l'exemple italien avec les tout premiers gouvernements de Berlusconi avec la Ligue et les ancêtres des frères d'Italie, l'Alliance nationale. On a eu des exemples autrichiens, naturellement, les Pays-Bas, le Danemark et d'autres pays. Donc oui, effectivement, il y a certains systèmes électoraux qui sont un peu plus résistants, mais dont malheureusement on peut voir qu'ils ont aussi parfois leurs limites.
Anaïs Voigilis, la question qu'on pose ce soir, c'est: est-ce que le monde assiste impuissant à la montée des populismes? Est-ce que cette dynamique en faveur de l'extrême droite peut s'inverser? Si oui, comment, selon vous?
C'est la question à 100 000 francs hein, que vous me posez, enfin euros, pardon, oui. Pardonnez-moi. Il n'y a jamais de dynamique irréversible. Là où ça peut inquiéter, c'est les conséquences sur la démocratie de ces partis, c'est-à-dire le détricotage de l'état de droit, la remise en cause de la séparation des pouvoirs, la nomination de proches à des fonctions clés, tout ce genre de choses qui peuvent avoir des conséquences de long terme. Mais encore une fois, ce n'est pas un mouvement irréversible. On voit bien que sur toute l'histoire d'un pays, il y a une succession de régimes plus ou moins démocratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une vaste question parce qu'il y a plein de leviers. Il y a à la fois des craintes sur ce qu'est l'identité d'une nation qui aujourd'hui se heurte à un contexte économique qui est quand même très compliqué, avec notamment en toile de fond la crise énergétique, un sentiment d'inégalité économique. Et d'ailleurs, souvent, on voit que l'un des moteurs dans l'extrême droite, c'est pas tant la situation économique d'un pays que le sentiment d'être dans une situation très inégalitaire. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, finalement, rien ne changera.
Mais fin de crise égale fin non, de ce mouvement de fond.
Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a la crise économique, mais il y a aussi une crise démocratique qui est en toile de fond. Le sentiment que, dans le cadre de la mondialisation, les partis de droite et de gauche traditionnels ont alterné au pouvoir sans finalement avoir une capacité à transformer le quotidien des gens. Le fait qu'on en demande certainement de plus en plus aux élus, avec peut-être des moyens restreints ou une capacité d'action restreinte par le cadre dans lequel on peut évoluer. Donc c'est la question qu'on peut sous-entendre là-dessus, c'est quelle serait les réponses à apporter par rapport à ce sentiment de d'écœurement d'une situation économique et démocratique. Et donc, ça passe sûrement par un peu plus de démocratie, à la fois d'un point de vue local. D'ailleurs, beaucoup de gens ont un appel au référendum d'initiative populaire qui pourrait peut-être passer par déjà des initiatives locales. Il y a la question de la transparence par rapport au fonctionnement de l'Union européenne, où seuls les députés européens sont élus par les citoyens européens, mais les commissaires sont par exemple nommés par les États. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire nommer par les instances nationales comme le Parlement? Et des réponses, au-delà de ces réponses démocratiques, des réponses économiques, d'action sur la réduction des inégalités, même si les inégalités, il y a aussi le réel et ce qui est du ressentiment. Donc, c'est finalement, il n'y a pas de réponse unique, c'est multifactoriel. Mmh. Et puis derrière, il faut aussi prendre en compte la culture des États, leur histoire, la progression, le maintien au pouvoir du Fidesz en Hongrie ou de droit et justice en Pologne. C'est aussi lié à des systèmes de représentation du monde qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on va avoir en France ou en Italie. Et donc, c'est pour ça que la réponse, elle doit aussi se jouer à l'aune de ces histoires et de ces cultures.
Cyril Coulet, comment expliquer que finalement, il y a ce mouvement de fond, on l'a répété, qui est mondial. On ne va pas citer tous les pays où l'extrême droite a le vent en poupe, mais parallèlement à cela, il y a aussi de nombreux pays où l'extrême droite décline. Et je fais appel à vous qui êtes spécialiste des pays nordiques, parce que c'est notamment le cas de la Norvège et du Danemark. Comment expliquer cette dualité?
Alors, on a des situations, des configurations dans lesquelles des partis populistes peuvent effectivement perdre la dynamique qui était la leur, hein, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. Pour ma part, sur les pays nordiques, parce que j'ai moins de prétention à parler des autres, mais clairement, ce qui a pu se passer historiquement, c'était le cas du parti, par exemple, du Progrès danois, c'est la disparition du leader historique ou la décrédibilisation du leader historique sans relais. Ça, c'est un cas de figure dans lequel des mouvements populistes peuvent se retrouver à un moment donné à disparaître pendant un temps du paysage politique. On peut avoir aussi une perte de crédibilité. Je pense notamment assez fortement au parti des vrais Finlandais, enfin maintenant qui s'appelle le parti des Finlandais, lors des élections européennes où ils ont fait alliance avec une coalition de partis populistes d'autres pays financés par la Russie. Et donc ça a été perçu comme étant une menace à la sécurité nationale et du coup le parti a vraiment perdu beaucoup en termes électoraux à cette occasion. Et puis on peut aussi avoir des exemples d'institutionnalisation du parti à faveur d'une participation au gouvernement. Ça a été le cas en partie du Parti du Progrès norvégien ou aussi d'une fraction en fait du Parti des Finlandais en Finlande, qui d'ailleurs avait du coup fondé un micro-parti qui n'a pas fonctionné, ce qui s'appelle le Parti Bleu, et qui à ce moment-là a connu en fait une forme d'attrition de son électorat. En tout cas, pour moi, sur les pays nordiques, c'est les trois configurations dans lesquelles on a pu constater à un moment donné une forme de retrait, de reflux de ces partis dans l'espace politique.
Gilles Ivaldi, il nous reste une minute. Est-ce que ces configurations que vient d'évoquer Cyril Coulet, on peut les retrouver ailleurs?
Oui, je crois. Et
est-ce que ça peut être d'augure à justement entraver cette marche en avant de l'extrême droite dans le monde?
Il y a un facteur qui est très important, je ne suis pas sûr qu'il a été souligné, c'est que ces partis souvent reculent lorsqu'ils ont été au pouvoir.
Voilà.
Si on prend les exemples de l'Autriche, de l'Italie, des Pays-Bas, du Danemark, de la Norvège, où les populistes de droite ont soutenu parfois les gouvernements de l'extérieur, ces participations au pouvoir ou l'association au pouvoir les fait reculer. Parce qu'à ce moment-là, ces partis sont confrontés aux mêmes difficultés que les partis traditionnels, c'est-à-dire leur capacité effectivement à tenir leurs promesses, à répondre aux attentes de leurs électeurs. Et comme ce sont souvent des partis qui ont tendance à surpromettre et à envisager beaucoup, beaucoup de choses, au final, leurs électeurs sont déçus au même titre que les électeurs des autres partis. Donc, un des facteurs de reflux de l'extrême droite, c'est lorsqu'elle est au pouvoir, avec un petit bémol, c'est lorsqu'elle est au pouvoir en coalition. L'exemple, effectivement, qu'on a cité du Fidesz ou de droit et justice en Pologne,
rapidement,
laisse à penser qu'effectivement, ce sont des partis qui, installés au pouvoir, peuvent le tenir. Mais lorsqu'elle est au pouvoir en coalition, l'extrême droite, comme beaucoup de partis, subit des pertes électorales et on a pas mal d'exemples qui le corroborent.
La difficulté difficile épreuve du pouvoir, effectivement, pour l'extrême droite. On en a parlé dans ce débat, c'était intéressant. Merci Gilles Valdi, chercheur de recherche au CNRS et au CVPOF. Merci à nos deux autres invités, Anaïs Voigilis, docteur en géographie, Institut français de géopolitique, et Cyril Coulet, chercheur spécialiste des pays nordiques. Ce débat est à présent terminé.